France Inter.
Ce soir, nous avons rendez-vous avec un très jeune homme qui, il y a un peu plus de 60 ans, faut dire, a été à la source d'une révolution et dont on continue tout autour du monde à fouiller l'œuvre et à en explorer de nouvelles facettes, notamment celles liées à ses débuts, les premiers éclairs d'un très jeune génie. Vous allez tout de suite deviner de qui je veux parler.
Young masters of war. He that built all the bombs. He that built the death planes. He that built the big guns. He that hid behind walls. He that hid behind desks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. Where a war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear I can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's the one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Can it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lowered down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Une des chansons les plus marquantes, les plus violentes aussi, des débuts de Bob Dylan, Masters of War. Elle figure dans son deuxième album, paru au printemps de l'année 1963, The Free Willin' Bob Dylan. On l'avait traduit en français par Bob Dylan en roue libre. Ben oui, en ce temps-là, on traduisait absolument tout. L'album qui a, pratiquement du jour au lendemain, fait de Bob Dylan la voix, le symbole, le porte-parole, comme on disait, de toute une communauté dans tous les États-Unis, une communauté politisée, à gauche, surtout urbaine, hein, il faut le souligner, qui luttait, comme elle le pouvait, contre la ségrégation raciale qui était encore légale dans certains États des États-Unis, des États principalement ruraux du Sud-Est, qui l'affichaient et la mettaient en œuvre. Une ségrégation sauvage et virulente aussi parfois, puisque de jeunes noirs se faisaient encore lyncher par la populace dans certains États donc du Sud-Est. Cette communauté était également dressée, cette communauté justement de ceux qui étaient contre tout ça, était également dressée contre la course aux armements, ce qui est précisément le sujet de la chanson Masters of War, dont vous venez d'entendre une version inédite, une variante de celle qu'on connaît et qui figure dans un nouveau recueil d'archives de Bob Dylan qui vient tout juste de sortir, le 18e volume depuis l'année 1991. Alors je reviens au sujet de Masters of War. Il faut souligner que dans ces années-là, une confrontation apocalyptique entre les États-Unis et l'Union soviétique est présente dans tous les esprits, en particulier chez les très jeunes. C'est quelque chose que la chanteuse Joan Baez a raconté. Dans les écoles, on obligeait régulièrement les enfants à se prêter à des exercices de simulation pour les préparer à une éventuelle attaque nucléaire des Russes. Oui, on faisait sonner des alarmes, on forçait les enfants à se coucher sous leur pupitre, et c'était très traumatisant. Les foyers les plus fortunés, d'ailleurs, faisaient construire dans leur jardin carrément des abris anti-atomiques. Bref, la guerre était alors dans tous les esprits, et il était normal que ça se traduise dans certaines chansons de Bob Dylan qui captaient toutes ces hantises, un peu comme un paratonnerre capte la foudre. Alors il faut néanmoins mettre les points sur les i. Bob Dylan, et c'est ce que montrait très bien le film A Complete Unknown, hein, un parfait inconnu de James Mangold avec Timothée Chalamet, Bob Dylan n'était pas du tout politisé. Je vais citer d'ailleurs ce que disait de lui celui qui fut son mentor à New York, Dave Van Ronk, c'est un guitariste qui avait étudié le blues et le jazz traditionnel et qui pensait, il n'était pas le seul, hein, que la chanson folk avait une mission, la mission de donner sa voix au peuple, à ses révoltes et à ses aspirations. Je cite donc Dave Van Ronk, « On a tous essayé de faire l'éducation politique de Bob Dylan de fond en comble, mais en fait, il s'en foutait complètement. » Oui, Bob Dylan est un esprit rebelle, libertaire, qui n'en faisait qu'à sa tête et qui fuyait l'embrigadement, les mots d'ordre et les slogans. C'était lui. Ça ne veut évidemment pas dire, surtout pas, qu'il était imperméable à ce qui se passait autour de lui. Bien au contraire, il lisait beaucoup tout ce qui lui tombait sous la main et il ressentait, il absorbait et surtout, il avait cette capacité unique de restituer de façon fulgurante, extraordinaire, ce que chacun pouvait ressentir. Masters of War, je vous le disais, est une chanson d'une rare virulence et dont le ton est loin de la douceur de cantique de Blowin' in the Wind. Marchand de guerre, en français on dirait plutôt marchand de canon, et ça commence comme ça. Vous les marchands de canon, vous qui fabriquez les fusils, vous qui fabriquez les avions de la mort, vous qui fabriquez toutes ces bombes, vous qui vous cachez derrière vos murs, vous qui vous cachez derrière vos bureaux, je voudrais juste que vous sachiez que je vous vois sous vos masques. On peut encore citer cette formule, vous m'avez mis un fusil entre les mains et vous vous cachez loin de mon regard. En somme, c'est l'éternelle complainte du combattant, le combattant manipulé par les États, des forces parallèles, des milices, tout ça. Et la fin de la chanson est un cri de rage. J'espère que vous allez crever et que c'est pour bientôt. Je suivrai votre cercueil par un après-midi pâle et je veillerai jusqu'à ce qu'on vous mette dans la fosse et je resterai sur votre tombe pour m'assurer que vous êtes bien mort. Ce soir, on éclaire un nouveau volume des archives sonores de Bob Dylan intitulé « Through the Open Window » consacré à ses débuts, au temps où ce jeune homme, âgé de 20 ans et des poussières, débarqué à New York de son Midwest natal au tout début des années 60, a lancé ses premiers éclairs de génie. O'Reilly stole a stallion.
But they caught him and they brought him back. And they laid him down in the jailhouse ground with an iron chain around his neck. When Riley's daughter got a message that her father was going to hang, she rode by night and came by morning with gold and silver in her hand. When the judge saw Riley's daughter, his old eyes deepened in his head, saying, "Gold will never free your father. The price, my dear, is you instead." "Oh, I'm as good as dead," cried Riley. "It's only you that he does crave. And my skin will surely crawl if he touches you at all. Get on your horse and ride away." "Oh, father, you will surely die if I don't take the chance to try and pay the price and not take your advice. For that reason, I will have to stay." The gallows shadows shook the evening. In the night, hound dog bayed. In the night, the grounds was groaning. In the night, the price was paid. The next morning, she had awoken to find that the judge had never spoken. She saw that hanging branch abandoned. She saw her father's body broken. "These be seven curses on a judge so cruel that one doctor can't save him. That two healers cannot heal him, and the three eyes cannot see him. That four ears cannot hear him. That five walls cannot hide him. That six daggers cannot bury him, and that seven deaths shall never kill him."
A friend of mine, he was a friend of mine. Every time I think about him now, Lord, I just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. Died on the road. He died on the road. He never had enough money to pay his room or board, and he was a friend of mine. I stole away and cried. I stole away and cried, 'cause I never had too much money and I've never been quite satisfied, and he was a friend of mine. He never done no wrong. He never done no wrong. A thousand miles from home, and he never harmed no one, and he was a friend of mine. Was a friend of mine. He was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine.
He was a friend of mine, une chanson interprétée par Bob Dylan lors de ses tout débuts à New York, c'est-à-dire le tout début des années 60. À l'origine, cette chanson était un blues qu'avait recueilli le grand ethnomusicologue Alan Lomax. C'est le détenu noir d'un pénitencier qu'il avait chanté en 1939 et Lomax, eh bien, l'avait capté sur son magnétophone à bande, un magnétophone qu'il alimentait grâce à la batterie de la voiture dans laquelle il sillonnait les routes du Sud à la recherche de chansons traditionnelles qui constituaient la mémoire de l'Amérique, la mémoire de son passé cruel, peuplé de malfrats, hors-la-loi, vagabonds et misérables de toutes sortes. Une chanson poignante que d'autres avant Bob Dylan avaient bien sûr repéré. Quant à Dylan, eh bien, il l'avait interprétée, comme je vous le disais, à ses tout débuts. Alors vous l'avez entendu, il la chante d'une voix étrange, celle d'un très jeune homme qui, à 20 ans et des poussières, souhaite se mettre dans la peau d'un homme d'expérience, un homme âgé, un homme fatigué, usé par une vie difficile, qui pleure la mort d'un malheureux comme lui, un compagnon d'infortune. Alors je cite les paroles. Il vivait à 1000 lieues de chez lui, il est mort sur les routes, il n'avait pas un sou en poche pour s'offrir une chambre ou un toit, il n'avait jamais fait de mal à personne et c'était mon ami. Ce qui est frappant dans le tout premier album de Bob Dylan, qu'il a enregistré en 2 jours hein, seulement pour un budget de $400 à la fin de l'année 1961, il était tout seul avec sa guitare et son harmonica, eh bien, c'est la virulence et la rage amère de son chant. Sa voix imite souvent, comme je vous l'ai dit, celle de certains chanteurs de blues rural. Et la chanson finale d'ailleurs de cet album, qui s'appelle « See that my grave is kept clean », résonne comme un cri désespéré, une force et une rage surprenante en la voix de ce gamin, enfin qui n'a pas du tout vécu ces expériences-là, qui venait d'un petit foyer tranquille des montagnes du Midwest, et qui souffrait surtout d'être dans une ville, New York, était loin de ses montagnes d'origine, une ville où il n'avait pas de toit et pas un sou en poche. À propos de cet album, qui n'a pas du tout marché, Bob Dylan déclarera par la suite, hein, je le cite, « J'étais alors plein d'une émotion rageuse et violente, j'ai joué de la guitare, j'ai joué de l'harmonica et j'ai chanté mes chansons, c'est tout.
I was riding number 9, going south from Carolina. I heard that long wah-wah-wah-some whistle blow. Got in trouble, had to roam, left my girlie, left my home. I heard that long wah-wah-wah-some whistle blow. Just a kid acting smart, I went and broke my baby's heart. I guess I was too young. Georgia mean, locked me to a ball and chain. I heard that long, wow, wow, some whistle blow. Sit and cry as the evening train goes by. I heard that long, wah, wah, some whistle blow. I've been locked here in the cell till my body's just a shell and my head turns whiter than snow. I'll never see that gal of mine, 'cause I'm in Georgia doing time. I heard that long, wah, wah, some whistle blow.
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
Takes a Roxanne gravel, baby. Make a solid road. Make a solid road. Takes a Roxanne gravel, baby. Make a solid road. Make a solid road. Takes a good woman, mama, to satisfy my weary soul. Have you ever been down on that seen that girl of mine? Turn the clouds, look lonesome, shining across the sea. Turn the clouds.
Rocks and Gravel, des cailloux et du gravier, une chanson rare de Bob Dylan, une chanson de style folk blues, composée par lui, contrairement à celle qu'on a entendue juste avant, qui s'appelle I Heard That Lonesome Whistle Blow. C'est une reprise du pionnier de la chanson country, Hank Williams, immense parolier et interprète, qui, il faut le souligner, fut le premier modèle de Leonard Cohen. Et oui, Rocks and Gravel, c'est une chanson qui figure dans ce nouveau recueil d'archives signé Bob Dylan, qui s'appelle Through the Open Window, le 18e de ce qu'il a appelé the Bootleg Series. C'est une série entamée en 1991, on pourrait dire la série des enregistrements pirates ou de contrebande. Un titre que Dylan a choisi de manière humoristique parce que dès la fin des années 60, se sont mis à circuler des disques de lui, dits pirates, c'est-à-dire des bandes volées, à savoir piratées, de chansons obscures, rares ou inconnues. Très convoitées, bien sûr, par les obsédés de Bob Dylan, dont j'étais malgré mon très jeune âge, et j'étais arrivé à mettre la main sur deux de ses albums, je me rappelle, et j'étais pas peu fier. Je reviens donc à cette chanson, Rocks and Gravel, là encore, elle éclaire l'importance de certains thèmes propres au blues, qui sont très présents, qui ont été très présents tout au long de la carrière de Bob Dylan. La route qu'on prend pour fuir, bien sûr, la misère, et puis l'errance, la solitude, le besoin d'une consolation qu'on ne trouve jamais. Et les paroles de Rocks and Gravel, c'est une sorte de parabole biblique, mais dans une déformation qui est bien profane. Les paroles disent « Il faut des cailloux et du gravier pour faire une bonne route. Il me faut une bonne femme, maman, pour satisfaire mon âme fatiguée. » Pas seulement son âme, d'ailleurs, sans doute. Et ça se termine sur une note d'espoir. Je voulais juste vous demander, si vous aviez pas vu ma chérie, les nuages ont l'air bien seuls quand ils brillent au-dessus de la mer. Et ma chérie, elle est belle, non, quand elle vient me retrouver. Alors l'évolution de Bob Dylan est bien connue. Après s'être embarqué, non sans un certain opportunisme, enfin c'est ce que souligneront ses ennemis, embarqué dans des réunions contestataires et de grandes manifestations politiques, il s'est même retrouvé sur la même estrade que le pasteur Martin Luther King, Bob Dylan reniera violemment certaines, dans les années qui suivent en tout cas, certaines de ses chansons les plus engagées politiquement. Notamment il y en a une dont il a dit beaucoup de mal par la suite, celle qu'il a consacrée à un certain Emmett Till. Emmett Till, c'était un malheureux gamin noir de 14 ans qui, au milieu des années 50, alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents dans une petite ville du Mississippi, avait été accusé de porter la main sur une cliente blanche dans une épicerie, de manière évidemment entre guillemets lubrique. Et une bande locale, de blancs évidemment, était allée enlever le garçon chez ses grands-parents pour le battre à mort. C'est un crime qui a eu lieu en 1955 et Emmett Till est devenu dans ces années-là, un symbole des atrocités liées à la ségrégation raciale. Des années plus tard, Bob Dylan a carrément renié cette chanson, qui n'était d'ailleurs pas très connue, puisqu'elle avait circulé seulement dans un album pirate, et il a dit ceci. « Pour être honnête, cette chanson, la mort de Emmett Till, c'était de la foutaise. Je m'aperçois aujourd'hui que ma motivation pour l'écrire était bidon. En fait, j'aurais pas dû l'écrire. » En tout cas, très vite, après être devenu l'étendard du mouvement dit « Protest Song », à la chanson engagée, Bob Dylan a déclaré qu'il ne voulait plus chanter des chansons indignées qui pointaient du doigt tel ou tel événement ou situation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sa politisation avait été en partie liée à la rencontre de sa première fiancée, Susie Rotolo. Oui, on écrit Suze, mais enfin on dit Susie, j'ai appris ça récemment. Susie était donc une artiste peintre qui était issue d'un milieu artistique et cultivé très engagé à gauche. D'ailleurs, c'est elle que on peut voir sur la couverture de l'album The Free Will and Bob Dylan, à son bras, penché sur son épaule dans une rue de New York enneigée. Elle avait largement contribué à ouvrir l'esprit de Bob Dylan. Or, entre les deux, ça ne se passait pas très bien. Susie se sentait malheureuse, elle se jugeait étouffée par lui, et elle avait choisi de partir pour un long long voyage en Italie avec ses parents, contre évidemment l'avis de son fiancé. Bob Dylan était amer et désespéré, et d'une certaine façon, ce qu'il considérait comme un abandon par Susie a sans doute contribué à l'éloigner de ces combats collectifs vers lesquels la jeune fille l'avait entraîné. Et en réaction, Bob Dylan a écrit sa première chanson véritablement personnelle, une chanson d'amour blessé qui est très connue, qui s'appelle « Don't think twice, it's all right », « Naguère, j'ai aimé une femme, une enfant plutôt, je lui ai donné mon cœur, mais elle voulait mon âme, mais ne te pose pas de questions, c'est très bien comme ça. »
And it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be traveling on. You're the reason I'll be gone. Don't think twice, 'cause it's all right. There ain't no use in calling out my name, girl. And it ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Twice, 'cause it's all right. Well, it ain't no use in turning on your lights, babe. Lights I never know. And it ain't no use in burning your lamp, babe. I'm on the dark side of the road. Well, it's lonesome traveling down a lonesome road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, 'cause it's all right. So I'm unraveling all by myself, babe. If you came before, I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. Ah, you just wasted my precious time. Don't think twice, 'cause it's all right.
Very Good Trip sur France Inter.
Build me
big cabin on a mountain so high, so I can't see Nelly as she goes right by. Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron armpits run aplenty, but the cardboard filled windows and old men on the benches tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick, and I was brought up by my brother. Oh, the iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels, they was humming, till one day my brother failed to come home, the same as my father before him. Through a long winter's wait, from the window I watched. My friends, they couldn't have been kinder, and my schooling was cut as I quit in the spring to marry John Thomas, a miner. Oh, the years passed again, and the giving was good, with a lunch bucket filled every season. But with three babies born, the work was cut down to a half a day shift with no reason. Then the shaft was soon shut, and more work was cut, and the fire in the air, it felt frozen, till a man came to speak, and he said in 1 week that number 11 was closing. They say in the east they are paying too much. They say that your ore ain't worth digging, that it's much cheaper down in the South American towns, where the miners work almost for nothing. So the mining gates locked, and the red iron rotted, and the room smelled heavy from drinking, and the sad silent song made the hour twice as long as I waited for the sun to go sinking. I lived by the window as he talked to himself. The silence of tongues, it was building, till one morning's wake the bed it was bare, and I was left alone with three children. This summer is gone and the ground's getting cold. The stars one by one they're a-folded. My children will go as soon as they grow,
For there ain't nothing here now to hold them.
Bob Dylan sur la scène du Carnegie Hall de New York, c'était en octobre 1963. Il y interprétait, entre autres, North Country Blues. C'est une très très belle chanson narrative qui figure sous une forme donc enregistrée en studio dans son troisième album, The Times They Are Changing, qui était paru au début de l'année 1964. C'est une chanson que Bob Dylan n'a plus jamais chantée sur scène depuis. C'est l'évocation du déclin d'une ville minière, une ville qui a attiré des familles à la recherche d'une vie meilleure. Mais l'exploitation des mines a cessé d'être rentable, puisqu'on extrait le même minerai pour bien moins cher dans une région d'Amérique latine. Alors c'est la désolation, les mines ferment, les commerces également, et les familles n'ont plus qu'un espoir, partir. Des situations comme celles que décrivait Bob Dylan n'ont cessé de se produire et de se reproduire tout au long de l'histoire récente des États-Unis. Et d'ailleurs, Bob Dylan avait assisté déjà enfant au déclin de l'industrie minière dans les montagnes du Minnesota où il avait grandi. Et ce qui est intéressant dans cette chanson North Country Blues, c'est que Bob Dylan adopte le point de vue de la femme du mineur, dont on découvre à la fin de la chanson qu'elle demeure seule avec ses enfants dans cette ville maudite, abandonnée par son mari qui s'est mis à boire, qui est complètement à la ramasse, quoi, qui parle tout seul, avant de disparaître on ne sait où. On peut entendre d'ailleurs dans North Country Blues la matrice de certaines chansons de Bruce Springsteen, notamment celle de l'album Nebraska, qui évoque des situations similaires. On retrouvera tout à l'heure d'autres chansons de ce récital de Bob Dylan à Carnegie Hall en octobre 1963. Ça a été vraiment pour lui le concert de la consécration qui a constitué sans doute la première étape dans la construction de son statut de légende vivante. En tout cas, ça a été l'apogée de sa période folk qui, au fond, aura été de courte durée. Voici un retour au tout début, quelques mois auparavant, de Bob Dylan à New York, au temps où il ne se produisait que dans de modestes bars. Voici la complainte du Moonshiner. Moonshiner, c'est le trafiquant clandestin d'alcool de contrebande au temps de la Prohibition. Et la chanson dit, voilà, ça fait 17 ans qu'il fait ça. Et c'est une chanson qui se termine comme ça. Le monde entier est une bouteille et la vie n'est qu'une goutte. Quand la bouteille se vide, elle ne vaut plus un clou.
I've been a moonshiner for 17 long years. I spent all my money on whiskey and beer. I go to some hollow and sit up my still, and if whiskey don't kill me, and I don't know what will. Friends, well, the women and follow and see what I spend. God bless them pretty women. I wish they was mine. Their breath is as sweet as the dew on the vine. Let me eat when I'm hungry. Let me drink when I'm dry. Dollars when I'm hard up. Religion. It sure ain't worth a damn.
Shiner, c'était Bob Dylan à ses débuts sur une scène de New York en 1963. Il nous reste un peu de temps, celui d'écouter une des chansons les plus puissantes de ses débuts, qui n'est pas forcément la plus connue, qui s'appelle Who Killed Davy Moore. C'est une histoire vraie qui avait parlé à Bob Dylan, qui lui avait profondément parlé, puisque Davy Moore, c'était un boxeur noir américain, un poids-plume, dont on avait pu voir l'ultime combat à la télévision. C'était tragique, puisque au 10e round, son adversaire l'avait acculé dans les cordes et frappé à la tête à plusieurs reprises, jusqu'à le renverser. L'arbitre avait alors arrêté le combat, que Davy Moore donc avait perdu. Le boxeur avait pu répondre à une interview à la fin du combat, mais hélas, de retour dans sa loge, il avait perdu connaissance et était tombé dans un coma irréversible, et 3 jours plus tard, Davy Moore était mort. L'émotion a été mondiale dans ces années-là, même le pape de l'époque, Jean XXIII, avait dénoncé la boxe comme un sport barbare. Alors vous allez l'entendre, ce qui est frappant dans cette chanson, Who Killed Davy Moore, c'est le phrasé de Bob Dylan qui est presque celui d'un rappeur. Alors je sais, il y en a peut-être qui vont se récrier si je dis que Bob Dylan a été un précurseur du rap, mais enfin je ne suis pas le seul à le dire, il y a des rappeurs américains qui l'ont admis, notamment Mike D, des Beastie Boys, et puis plus récemment Kendrick Lamar, qui est quand même pas des moindres. Alors voilà, la chanson dit « Qui a tué Davy Moore ?» C'est ce que demande Bob Dylan. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Et il convoque, comme à la barre d'un tribunal fantasmatique, tous les acteurs et tous les témoins. « C'est pas moi !» dit l'arbitre. « Me montrez pas du doigt, j'aurais pu arrêter le combat plus tôt, oui, mais la foule m'aurait hué. » C'est pas moi, dit la foule en colère, c'est triste qu'il soit mort, mais nous, on voulait voir un beau combat, on voulait de la sueur, où est le mal, etc., etc. Donc tout le monde se défausse à tour de rôle, l'agent, le parieur, le journaliste sportif, jusqu'à l'adversaire de Davy Moore qui dit « C'est vrai, je l'ai frappé, mais c'est pour ça qu'on me paye. »
Who killed Davy Moore? Why? What's the reason for? Not I, said the referee. Don't
point your finger at me. Sure, I could have stopped it in the eighth and kept him from his terrible fate. But the crowd would have booed, I'm sure, at not getting their money's worth. It's too bad you had to go, but there was pressure on me too, you know. No, it wasn't me that made him fall, you can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why and what's the reason for? Not us, said the angry crowd, whose screams filled the arena loud. It's too bad he died that night, but we'd just like to see a good fight. We didn't mean for him to meet his death, we'd just like to see some sweat. There ain't nothing wrong in that, it wasn't us that made him fall, you can't blame us at all. Who killed Davy Moore, why and what's the reason for? Not I, said his manager, puffing on a big cigar. It's hard to say, it's hard to tell, I always thought that he was well. It's too bad for his wife and kids, he's dead, but if he was sick he should have said, it wasn't me that made him fall, no you can't blame me at all. Who killed Davy Moore, why, what's the reason? Not me, says the boxing writer, who pounds the print in his old typewriter, saying boxing ain't to blame, there's just as much danger in a football game. Saying boxing is here to stay, it's just the old American way. No, it wasn't me that made him fall, you can't blame me at all. Who killed Davy Moore, why, and what's the reason for it? Not I, said the man whose fists laid him low in a cloud of mist, who came here from Cuba's door, where boxing ain't allowed no more. I hit him, yes, it's true, but that's what I'm paid to do. Don't say murder, don't say kill, it was destiny, it was God's will. Who killed Davy Moore, why, and what's the reason for? Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will be cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit and the sands on the shoreline will be shaking. And the tide will sound and the waves will pound and the morning will be breaking. Oh, the fishes will laugh as they swim out of the path and the seagulls, they'll be smiling. And the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as they're spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried on the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts unto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ships come in. Then the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. Oh, the foes will rise with the sleep still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real the hour that the ships come in. And they'll raise their hands saying, we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide, and like Goliath, they'll be conquered.
Bob Dylan sur la scène du Carnegie Hall de New York, c'était en octobre 1963, une de ses chansons de la période les plus connues, When the Ship Comes In. C'est une chanson qui a le ton d'une prophétie. Un jour, un bateau viendra, il fendra les flots, les mouettes riront de joie à son passage, il nous délivrera de nos chaînes et nos ennemis, nos oppresseurs, surpris dans leur sommeil, se soumettront à nous, supplions qu'on les épargne. C'est un peu du Bob Marley avant la lettre. Alors c'est, avant qu'on se quitte, il faut quand même que je vous raconte cette histoire qui est assez amusante, parce que, bon, on a l'impression que c'est vraiment une sorte de vision biblique où les vilains seront terrassés par les gentils. Or, ce flot d'éloquence de justicière était né chez Bob Dylan à cause d'une source qui était très terre-à-terre, c'est que le réceptionniste d'un hôtel avait refusé de l'accueillir un soir parce que, tout simplement, il avait l'air trop sale. Ce qui avait déclenché sa fureur et ce désir de vengeance qui s'était exprimé dans cette chanson, évidemment, qui avait une toute autre portée. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup à Vincent Godard qui a réalisé et mis en nom de l'émission. Merci également à Guillaume Cohoner pour le site internet de l'émission, ainsi que Romain Couturier pour la discothèque de Radio France.